bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h.
Bonjour et bienvenue dans la bande originale avec aujourd'hui Albert Algou.
Bonjour.
Dom Villa.
Bonjour.
Éric Ségriste en deuxième heure.
Bonjour Éric.
Pasturo viendra maltraiter l'info. Troisième jour de cette bande originale, son avis, toujours à mes côtés, Lila Kadour Boudali.
Salut à tous, bravo. Bonjour Daniel Morin, notre invité aujourd'hui dans la bande originale, c'est monsieur Daniel Auteuil.
Bravo. Bonjour.
Bonjour Daniel, quel plaisir de vous avoir à ce micro. Comment allez-vous ce matin?
Écoutez, en pleine forme, un peu nerveux, mais
Et oui, parce que aujourd'hui,
nerveux, excité, juste impatient de savoir comment ça s'est passé, tout ça, mais tout va bien.
Alors ça s'est passé. On parle de quoi? On parle de la sortie de votre femme.
De quoi parle-t-on?
Et oui, je vais resituer.
Pourquoi
vous êtes venu? On va resituer. C'est Amoureux de ma femme qui est sur vos écrans aujourd'hui, un film réalisé par vous, Daniel Auteuil, dans lequel on vous retrouve également en tant que personnage, aux côtés de Sandrine Kiberlin, Adriana Ugarte et Gérard Depardieu. Voilà
Le
casting de ces
deux
couples.
Un casting un peu faible. Oui. Je dois dire que...
Mais heureusement vous y êtes.
Je suis d'accord. Parce que franchement, j'ai pas trouvé mieux. Vous savez, j'ai pas trouvé mieux pour faire ce film, mais bon, ils étaient pas chers, donc j'ai pu les avoir.
On va croiser les doigts.
Qu'est-ce qui change quand on vient faire de la promo pour un film et qu'on n'est pas simplement un interprète, mais on est aussi derrière la caméra et qu'on a réalisé?
On est beaucoup plus concerné. On est beaucoup moins détendu.
Fais-moi le fier.
On fait moins le fier, oui, oui.
C'est votre quatrième film pourtant.
Mais ça ne change rien, c'est le même truc. Chaque fois on se demande pourquoi on fait ça, pourquoi on l'a fait. Non mais en même temps c'est... C'est trop tard. Non, c'est... comment dire, c'est vrai, c'est différent, c'est absolument différent. Les implications sont pas les mêmes. Quand on est acteur, on passe 2 mois à faire un film ou 6 semaines. Quand on est metteur en scène, ça fait 2 ans que je suis sur le truc, quoi. Bon, en même temps, heureusement, je fais d'autres choses parce que je me démerde. Je fais des films au milieu comme acteur et tout ça. Mais c'est une véritable implication. Il faut convaincre des gens pour faire le film. Ensuite, il faut le faire. Ensuite, la partie difficile, c'est de partager son enthousiasme et qu'on ait envie que cet enthousiasme soit partagé, quoi. Ouais. Je veux dire, c'est comme si t'as fait mais ça a l'air partagé pour l'instant.
Alors, Amoureux de ma femme, c'est une matière, cette phrase, voilà. Amoureux de ma femme, Daniel Auteuil, c'est un sujet que vous connaissez bien.
Ah oui, je suis amoureux de ma femme,
déjà,
c'est vrai.
Déjà,
parlez-nous de vous.
C'est l'adaptation sur grand écran d'une pièce que vous avez mise en scène, oui, vous-même, un texte de Florian Zeller que vous avez joué pendant plusieurs mois à Paris, qui a été un véritable succès.
Deux saisons.
C'était l'envers du décor.
Oui, et on a joué à Paris 2 saisons, en tournée un peu partout. Et effectivement, c'est une pièce librement adaptée par Florian Zeller. Quand je dis librement, c'est-à-dire que dans la pièce mettait en scène les pensées des personnages. Et le cinéma permet de mettre en image ses pensées, ouais, et donc une plus grande liberté. Voilà.
Alors, le pitch de départ, on va quand même raconter pour nos auditeurs.
Allez-y, parce que vous
rejoignent.
Pitchez bien.
Alors, vous êtes en couple avec Sandrine Kiberlin. L'un de vos meilleurs amis était, il y a quelques mois encore, en couple avec un couple de meilleurs amis, tout simplement. Vous connaissez depuis très très longtemps.
Une vingtaine d'années à peu près. Et on pensait qu'il était heureux. Comme je le suis moi-même, comme nous le sommes tous en couple. Et
donc un jour vous apprenez qu'il a quitté son épouse.
Il a quitté son épouse, qui est la meilleure amie, surtout son épouse est la meilleure amie de ma femme. Donc ça, c'est un peu tendu, tout ça, on ne se voit plus. Et un jour je le croise dans la rue, alors il me dit, mais ça me ferait tellement plaisir de qu'on se revoie, tellement plaisir de vous présenter Emma, parce qu'elle s'appelle Emma.
Sa nouvelle compagne.
Et ben je dis, bah ouais, formidable, venez dîner à la maison, Isabelle, ma femme, Sandrine Kiberlin sera ravie. à ce moment-là, dans ma tête, je dis mais qu'est-ce que je viens de dire? Et donc je reçois un paquet de copies parce qu'elle est
elle est enseignante,
copies et je me dis elle va absolument pas vouloir, mais c'est trop tard. Il insiste, il est invité. Et donc après voilà, je dois convaincre ma femme de ce dîner. Je n'y arriverai pas, mais c'est elle qui va commencer à comprendre le. Vous m'arrêtez si je suis trop long. C'est elle qui. Mais reprenez parce que.
Mais vous êtes bien là.
Commence la manœuvre de votre femme.
Oui, voilà. Ma femme commence à se dire attention, si j'empêche ce dîner, est-ce que lui serait capable de faire ça? Non, quand même pas.
Elle a peur en fait que vous soyez piqué par le même démon, que vous ayez envie de rencontrer quelqu'un d'autre, ouais. Puisque votre ami a l'air d'aller si bien.
Ouais, elle a peur, mais elle me voit pas faire ça en même temps.
Moi aussi.
On a des dossiers.
Et en même temps, elle sait que je suis quand même un garçon assez fragile, une espèce d'éponge qui vit la vie des autres et tout ça. Et donc, elle veut contrôler la situation. Elle fait venir finalement, elle décide que ce dîner aura lieu. Et à partir de là, c'est une espèce de catastrophe dans ma tête et dans sa vie. Et les autres se rend compte de rien à peu près, mais quand même il morfle aussi. Enfin voilà. Et puis à partir de là, c'est le délire le plus total. Mais comment vous diriez ça vous?
Mais moi je dirais que vous êtes en effet un personnage qui vit un peu par procuration, parce que pendant toute la durée de ce dîner, il faut dire que vous succombez déjà visuellement au charme de la nouvelle compagne de Gérard Depardieu, qui est incarnée par cette magnifique et brillante actrice Adriana Ugarte qu'on a vue dans Julieta,
oui,
d'Almodovar, récemment, qui était vraiment stupéfiante. Vous la voyez. Et vous imaginez, comme ça, vous commencez à imaginer, entre l'entrée et le plat principal, la vie que vous pourriez mener avec elle, comment vous pourriez tomber amoureux subitement, comment
oui,
le coup de foudre
ça,
pourrait arriver.
Voilà, une autre vie, ça, alors qu'il ne se passe rien d'autre qu'un dîner normal. Mais c'est une révolution dans un verre d'eau, une tempête dans un verre d'eau.
Mais au départ, c'est juste de la curiosité, et puis vous vous piquez au jeu,
oui.
Et là, vous
mais voilà, c'est ça. Et surtout, j'imagine. C'est-à-dire que ma femme et moi projetons beaucoup sur cette jeune femme. C'est-à-dire, ma femme l'imagine. Il suffit qu'elle dise qu'elle essaie d'être comédienne et qu'elle travaille dans un bar. Ma femme l'imagine en prostituée et moi en espèce de Maria Cazares. Maria Cazares pour les plus jeunes. C'était une immense actrice espagnole.
J'en ai bien connu.
Une immense actrice espagnole et en train de jouer Tchekhov. Enfin, bon, bref, si vous voulez.
Qui a entretenu une superbe correspondance.
Oui,
Cazares.
Oui, bah oui, avec Camus.
Ouais.
Mais enfin, tout ça nous éloigne un peu du sujet. Mais c'est beau, je suis d'accord. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est une fantaisie amoureuse totalement axée sur l'imaginaire, qui rend un hommage aux femmes et qui rend les hommes un peu bêtes. mais c'est plutôt bien vu en ce moment que les hommes soient un peu bêtes. Voilà.
Non, mais c'est ce qui arrive à beaucoup de couples qui durent depuis très longtemps. Il suffit qu'il y ait une petite nouveauté.
Tu veux discuter
Il faut que je parle. Est-ce qu'on peut tamiser un peu les lumières?
Je trouve que tu en parles bien.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que
tu l'as vécu.
Non, c'est juste. Pas du tout. C'est juste un coup de chaud. C'est juste un coup de chaud.
C'est
juste.
C'est juste un coup de chaud.
C'est un coup de chaud.
Tu n'es pas venu ici pour dire des choses sur toi, en fait.
Mais c'est aussi un conte moral. L'autre truc aussi qui m'intéressait, après on parlera d'autre chose.
Non, mais parce qu'il faut quand même parler de il faut quand même parler de votre réalisation, parce que tout le film repose en effet sur ce principe de l'envers du décor, comme c'était le cas au théâtre, et en effet ça fonctionne beaucoup plus simplement au cinéma, parce que tout de suite avec les images parlent d'elles-mêmes. C'est que on commence à se demander, voilà, la situation initiale c'est la réalité, et il y a ces petites scénettes qui viennent s'intercaler, qui sont vos fantasmes, vos rêveries, à tel point qu'on se demande à certains moments si cela relève de la réalité ou de la fiction.
Exactement.
Et c'est ça le trouble qui est semé, qui est intéressant aussi dans la mise en scène.
Voilà. Et peu à peu, les rêves vont prendre place sur la réalité. Le spectateur va plus savoir si où est la réalité, où est la fiction. Et moi-même, le personnage, je veux dire, dans ces moments de fiction, il ne sait pas s'il est dans la réalité. Je veux dire que il est totalement perdu. Voilà, ça permet effectivement de parler d'amour, de parler de sentiments. C'est plutôt un type qui a le sentiment de que le temps passe et le sentiment que qu'il est en train de manquer quelque chose.
Oui, il a envie de retrouver des sensations.
De retrouver. Et c'est très axé sur les sentiments. C'est très axé. C'est très bien.
J'en parle bien.
Hein. Il s'appelle Daniel aussi. C'est ça le problème.
Le personnage de Gérard Depardieu a peut-être lui aussi vécu un repas comme ça précédemment. C'est peut-être ça qui a.
Alors Gérard, lui, Gérard dans son histoire, il a eu de la chance parce que il est en état d'apesanteur. Hein. On voit bien dans le rôle que je veux dire que il flotte. Hein. Il est très 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 amoureux d'Adriana. Adriana lui rend très bien et ils forment un couple tout à fait complémentaire et heureux. Et c'est un peu ça qui me perturbe. Quoi.
Parce que son mantra, c'est la vie est trop courte. Il vous le répète, il vous dit voilà, moi j'étais pas heureux avant. Je redécouvre la vie là avec ma nouvelle compagne Adriana.
Mais comment ne pouvait-il pas être heureux avec Laurence, parce que moi je l'ai bien connue, Laurence, son ancienne femme était formidable.
Mais est-ce que les couples ne jouent pas la comédie aussi parfois?
Oui,
comédie
oui,
sociale.
Oui,
c'est une autre lecture.
Absolument. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout le monde rêve, tout le monde projette, et que les rêves font vraiment du bien, nous font vraiment du bien, et que ça fait pas de mal de rêver un peu, voilà.
Nous on va vous faire du bien, on va vous présenter quelqu'un qui est apparemment a tout compris à ce qui se passait
évidemment
dans cette émission et au sujet, peut-être moins que moi, puisque la différence d'âge, peut-être. Bon, en tout cas, il a de la valeur. Tom Villa.
Oui.
Vous avez tout compris?
Bah oui, évidemment. Daniel Auteuil qui vient nous voir pour son film, donc Amoureux de ma femme, on l'a dit, tiré de la pièce L'envers du décor. Dans la pièce, on entendait vos pensées. Dans le film, on peut voir ce que vous imaginez, ce que vous rêvez. Alors ici, les rois du rêve, voilà, c'est évidemment Daniel Morin en numéro 1 et Albert Algou. Ils rêvent de tout, de rien. Ils rêvent de Nuitori, de la présidence de Radio France. Ils rêvent de pince téton, fourgonnette, capitonnée, cuir pour certains. Albert, lui, rêve de quiétude. Non, ça c'est pas eux. Bref, dans la pièce comme dans le film, on rentre dans votre tête, voilà. Et parfois, moi, j'aimerais bien savoir ce qu'il y a dans la tête des journalistes qui font les interviews. Alors, Daniel Auteuil qui vient nous voir pour son film Amoureux de ma femme.
Et merde, je l'ai pas vu, putain.
Un film que j'ai adoré.
Enfin, plutôt une bande-annonce que j'ai adoré.
Alors, à la base, c'était tiré d'une pièce de Florian Zeller qui s'appelle L'envers du décor. Et il est incroyable, ce Florian Zeller. Qu'est-ce qu'il écrit comme pièce, hein,
qu'est-ce qu'elle est con, ma question. Bah, évidemment qu'il écrit des pièces, Florian Zeller, c'est son métier. On dit pas, dis donc, cet expert comptable, qu'est-ce qu'il fait comme bilan?
Donc, après la pièce, maintenant, le film.
J'espère qu'ils vont pas faire le livre et la BD, sinon on est dans la merde. Hein.
Alors, à vos côtés, il y a Sandrine Kimberlin, l'actrice César Izet. Kimberlin, pardon. Donc, à vos côtés, il y a Sandrine Kimberlin, l'actrice César Izet, puis Gérard Depardieu.
L'acteur russe.
Comment ça s'est passé, ce tournage avec Gérard Depardieu?
Allez, s'il te plaît, Daniel Auteuil, s'il te plaît. Dis-moi une saloperie sur Depardieu, s'il te plaît, Daniel. Comme ça, on fait la reprise sur les blogs médias de merde et ça sent le buzz.
Ça devait être compliqué, je suppose, avec son agenda, son spectacle sur Barbara, ses projets cinéma.
Le week-end avec Poutine.
Il paraît que sur un tournage, il est assez difficile à canaliser en plus. Hein.
En plus, j'en sais rien du tout, c'est moi qui viens de l'inventer. Toujours prêcher le faux pour avoir le vrai.
Donc, on va faire un petit résumé du film. Vous m'arrêtez si je me trompe. Hein.
J'ai fait un copier-coller de Luciné, j'espère qu'ils n'ont pas écrit de conneries.
Daniel est très amoureux de sa femme, mais il a beaucoup d'imagination et un meilleur ami parfois encombrant. Voilà.
Tu m'étonnes qu'il est encombrant, le meilleur ami. C'est Depardieu. T'as déjà essayé de porter un canapé tout seul dans un déménagement, toi?
Alors, lorsque celui-ci insiste pour un dîner entre couples afin de présenter sa toute nouvelle et très belle amie, Daniel se retrouve coincé entre son épouse qui le connaît par cœur et des rêves qui le surprennent lui-même.
Bref, il a envie de la déglinguer, mais il peut pas.
Et ce film, donc c'est vous qui l'avez réalisé. Hein. D'où vous vient cette envie de réalisation, Daniel Auteuil?
Bah, d'avoir envie de bosser, connard. J'en peux plus de mes questions. Je m'auto-soule. C'est très rare, je m'auto-soule.
Alors, dans le film, vous êtes tiraillé entre votre femme et la nouvelle femme de votre ami, avec qui vous avez des pensées un peu coquines, je sais pas si on peut le dire, mais...
Bah le dis pas, alors.
Ça vous est déjà arrivé, ce genre de situation?
Et donc, sérieusement, je pense avoir une réponse à ma question, là. J'aurais carrément dû lui demander... Alors, ça vous arrive de tromper votre femme dans la vraie vie, Daniel, ou pas?
En tout cas, merci d'être venu nous voir, Daniel Auteuil.
Hein. Et puis du coup, on se dit à dans 3 mois pour un nouveau film.
En tout cas, vous êtes le bienvenu, vous revenez quand vous voulez.
Ah bah merde. Pour une fois, j'ai dit ce que je pensais. Oh bah ça peut arriver alors.
Allez, bonne émission. Merci Tom Villa.
La bande originale. Sur France Inter.
C'est terrible toutes ces arrières.
À mon avis, il y a deux, trois fois où c'est vrai. Pas personnellement, mais.
Non, bien sûr.
Nagui n'est pas là, mais son esprit qui descend de temps en temps, comme
oui,
ça.
Mais ça les pensées de Nagui sont beaucoup moins polies.
Alors parlons Daniel Auteuil, du casting, puisque le casting qu'on retrouve pour le film n'est pas le même que pour celui de la pièce de théâtre. Qu'est-ce qui a déterminé vos choix en la matière?
L'envie de retrouver ces acteurs avec qui j'avais déjà travaillé.
Ça faisait 14 ans que vous aviez tourné avec Gérard Depardieu dans Quai des Orfèvres, vous aviez retourné.
Oui, Sandrine aussi. Ça passe, le temps passe.
C'est fou, ça.
14 ans, oui, c'est tout, voilà, c'est ça. On n'avait pas terminé notre conversation.
On est déjà le 25 avril.
Oui, c'est dingue. Oui, mais non, c'était dans la réécriture du scénario, c'était des personnages qui correspondaient vraiment à l'écriture. Et puis,
vous avez fait des clins d'œil aussi, c'est-à-dire qu'on voit que c'est réadapté vraiment pour Gérard Depardieu.
Oui, bien sûr. Et puis surtout, pourquoi c'est parce que ce sont des immenses, immenses, immenses acteurs et que voilà, on a envie de voilà, j'avais envie d'être avec eux, de passer 2 mois avec eux et c'est fait.
Et quand je dis que c'est adapté, c'est que quand Gérard Depardieu fredonne quelque chose, forcément, c'est.
Dites-le-moi du bout des lèvres. Je l'entendrai du bout du cœur.
Ça oui, je vous dirai après.
Dérange, je rêve. Je rêve.
Forcément Barbara.
Oui, parce que dans
une seconde peau presque maintenant.
Oui, parce que c'est effectivement dans comme c'est les fantasmes du personnage, mais que c'est aussi les miens. J'ai eu envie de plein de choses, donc j'ai eu envie de Gérard sur une bicyclette en train de chanter du Barbara et il le fait. Il vient vers nous, c'est un beau moment. J'ai eu envie de voir Sandrine Kiberlin. Elle a une particularité, c'est qu'elle ne peut pas tricher. Elle a un truc physique qui fait qu'elle peut pas tricher, c'est-à-dire quand elle est émue, elle a des plaques rouges sur le cou et sur le.
C'est gênant.
Non, c'est très beau. C'est très émouvant.
Quand vous la frappez aussi.
Non, on la frappe pas, on frappe personne.
On retire ça, Albert.
On frappe personne, monsieur. Non.
Et c'est. Oui, il est du siècle dernier.
On aurait dû le faire avec la voix du maréchal. Parce que là, voilà.
Dans mon temps, c'était comme ça.
Voilà, merci maréchal.
On avait des
chaud parce que je me reçois du courrier.
Et donc, elle est comme ça, d'une très grande émotivité, d'une grande sincérité. Donc c'est très plaisant. Ça.
Et Adriana Ugarte, vous l'avez eu aussi un coup de foudre quand vous l'avez vu dans Julieta. Comment vous l'avez repéré
en voyant Julieta d'Almodovar, je l'ai trouvée exceptionnelle parce qu'elle est à la fois, si vous voulez, j'avais aussi en référence comme film le film de Buñuel, c'est l'objet du désir, cet obscur objet du désir. Et Buñuel, il avait mis deux actrices, mais elle, je trouve que ça suffit. Elle, on peut projeter tout ce qu'on veut sur elle. Elle est pas une beauté glaçante de magazine, elle est une beauté très très humaine et changeante. Donc pour moi, elle est cette héroïne de théâtre.
Oui.
Et pour ma femme, elle est pleine de choses. Et c'est une elle parle très très bien français, c'est un coup de bol. Et le fait qu'elle soit comme ça étrangère apporte encore quelque chose de très joli à l'histoire.
De très attirant. Et en plus, vous lui proposez un rôle qui lui permet de s'évader dans d'autres personnages celui de la belle femme qui arrive au dîner avec une belle robe moulante rouge qui exacerbe à peu près tous les premiers penchants. Masculin
et féminin.
Mais j'ai pas fini ma phrase, vous êtes assez incroyable, parce que, comme je le disais, au-delà de dire que c'est une très bonne comédienne, j'ai trouvé que de toute façon, je suis tombée sous le charme de cette comédienne quand j'ai vu Julieta déjà, donc quand je l'ai retrouvée là, j'ai mis un petit peu de temps à la reconnaître parce qu'elle n'est pas coiffée de la même manière, et je me suis dit, quel beau choix. Alors, continuons à parler aussi de la musique. On vient d'évoquer Barbara, fredonnée par Gérard Depardieu à bicyclette, ce qui est quand même une belle tentative de réalisateur, ça. Au soleil, en plein cagnard, c'était plutôt pas mal. Il y a aussi tout ce jazz manouche qui vient scander et donner du rythme à cette comédie. Et c'est Thomas Dutronc, que vous avez choisi. C'est une commande, ça, Thomas Dutronc.
C'est un. C'est quoi la question ?
Une commande.
C'est une commande, spécialement pour le film,
c'est pas une commande, c'est un désir. Ouais. De ma part, j'avais envie d'une musique, j'avais envie d'un son de trompette, de quelque chose d'assez jazz, et pas forcément manouche, mais plutôt de jazz classique, et il a mélangé absolument tout ça, et c'est une rencontre fortuite dans une rue.
C'est vrai ?
Oui, oui.
Dans la rue. Tiens, tu me ferais pas la musique de mon prochain film. Ça donne ça,
c'est
avant de faire un film, vous traînez dans la rue et vous attendez que les gens passent.
C'est ça.
Il va bien passer maintenant, là, Dutron. Ça fait deux jours que j'attends.
Mais vous savez, quand j'étais jeune homme, moi, j'étais dans la rue et je chantais un peu fort en espérant qu'il y ait quelqu'un qui s'arrête et qui me dit « Oh là là, vous chantez bien, vous voulez pas signer un disque ?» C'est jamais arrivé. Hein.
Mais c'est pas trop tard.
Mais tandis que là, je voyais dans la rue, j'ai croisé Thomas Dutron et ça s'est passé. Non, il a lu le scénario, tout ça, il est emballé, et on a beaucoup parlé. Mais c'est vrai que sa musique apporte énormément au film.
Ouais. C'est marrant parce qu'on a l'impression, là, vous racontez depuis tout à l'heure, si vous avez envie de quelque chose, on a l'impression que vous faites un film pour que ça arrive. Vous vouliez voir Gérard Depardieu sur une bicyclette, vous avez dit « Ah bah tiens, je vais prendre Gérard pour
faire
le film ».
Mais c'est ça le cinéma.
C'est bien.
C'est un objet à rêve, absolument, ouais. C'est ça. C'est absolument ça, c'est-à-dire... pour moi, le cinéma, le métier que je fais, le théâtre, le cinéma, c'est un endroit où il peut rien m'arriver de méchant parce que tout est prévu. Et ça me rassure beaucoup de travailler et d'inventer des choses comme ça parce que je prévois le début, je prévois la fin. Alors que dans la vie, je sais pas, en sortant, je peux glisser sur un truc et me fracasser la tête, voyez.
Si vous voulez, on fera accompagner.
Oui, c'est ça, je veux bien. Oui.
Service public, hein, on est comme ça. Est-ce que vous avez pensé au couple qui pouvait regarder juste à deux ce film-là?
Je me souviens au théâtre, en tout cas, ce qui se passait à la fin, c'est à la fin. Parce qu'à la fin, on peut pas dire, il faut se laisser surprendre. À la fin, les gens étaient, les couples s'embrassaient, ils étaient soulagés. Quoi. Je pense que c'est un truc qui tonifie après. Non, je pense que ça réveille.
Après, au milieu d'une période d'angoisse.
Ah oui, mais
inévitablement, il y a.
Et toi, ça va toi, Daniel ? Il y a des femmes qui ont quitté la salle au milieu.
Non, jamais. Vous savez que le désir naît de la frustration, donc c'est normal que.
Oh, ça, je suis au courant. Ah, ça, je peux vous le dire.
Attends, on a deux invités aujourd'hui, Daniel Auteuil et Daniel Morin.
Alors, oui. On va parler de vos oreilles.
Oui,
oui. Il paraît qu'elles sont bien lancées.
Hein. Il paraît qu'elles ont soufflé.
Eh ben, bravo.
Quand vous avez Daniel Auteuil, Lyonnais.
Daniel Auteuil, quand je pense à vous, je pense à la méchanceté de Nagui qui s'étonne souvent de vos bons goûts musicaux. Il faut le dire, il le dit à chaque fois.
Mais Nagui est un chien.
Mais je pense aussi et surtout à une jeune comédienne qui a eu à ce micro des mots très gentils pour vous.
J'aimerais remercier Yvon Attal. Pour sa tendresse, son amour, sa bienveillance, son regard et son exigence. Daniel Auteuil, c'était dingue, merci. Vraiment, c'était dingue.
Alors, elle a tenu des propos semblables ici, déjà dans l'émission, oui. Et là, bien entendu, vous l'avez reconnu, c'était la cérémonie, puisque Camélia a eu le César du meilleur espoir féminin pour son rôle dans Le Brio, à vos côtés, Daniel Auteuil.
Eh bien, c'était formidable qu'elle ait ce César. J'y suis absolument pour rien et je suis ravi pour elle. Oui, effectivement.
Pourquoi vous n'êtes pour rien ?
Non, je veux dire par là que parce que on m'a dit mais tu étais là en face et tout ça. Non, elle tout ce qu'elle a eu, elle l'a eu grâce à elle et par elle quoi. Voilà, je trouve que elle a énormément de talent et je suis arrivé à un certain moment, à un certain âge, c'est formidable de pouvoir passer le relais. Voilà, je suis pas prof d'art dramatique, j'écris pas des théories sur comment il faut jouer, mais en mettant en scène ou en étant partenaire, avec des jeunes gens, j'aime l'idée de transmettre. Voilà.
Et pendant ce moment-là où Camélia a prononcé ces mots, la caméra était sur vous.
Ah ça, je sais pas, j'ai pas vu. Alors.
Enfin, en tout cas, pendant le moment où voilà, elle a été annoncée.
D'ailleurs, à un moment, j'ai cru que c'était vous, Camélia Jordana.
Non, mais c'est vrai, c'était assez touchant, comme si c'était un peu une forme de paternité, comme si vous étiez un peu le papa, vous la regardiez avec beaucoup d'affection. Qu'est-ce qui se passe
le papa,
vous à ce moment-là ?
Rien, je sais tellement ce que c'est pour avoir vécu ça et de l'avoir vécu comme elle, jeune. C'est très agréable d'avoir des prix quand on est jeune, vieux. C'est moins bien parce que ça, c'est une espèce de récompense sur le, je veux dire.
Posthume.
Voilà. Non, c'est pas moi. je sais bien, c'est toujours bien, mais quand on est jeune, c'est très encourageant. Et c'était un rôle difficile pour elle. C'était un rôle nouveau, axé comme ça sur le sur la parole. Elle avait ses grands monologues. Elle avait imposé quelque chose à la fois en tant qu'actrice, et elle avait la responsabilité de rendre crédible pour tous les autres ce rôle qui est une vraie identification. Elle a réussi ça, elle a réussi ça très bien. C'est qu'est-ce que vous m'avez demandé? Là, parce que l'émotion.
Qu'est-ce que vous ressentiez à ce moment-là? Ah,
Je me disais, profite, voilà, je lui disais à elle, dans ma tête, voilà, profite, et c'est bien, et c'est mérité, et c'est joyeux, et je pensais, je pense que il y a des bons moments, parfois, dans ce métier, et c'en est un, voilà, il est très fugitif, comme disaient les jeunes, c'est les moments qu'il faut kiffer, quoi, voilà.
Et vous avez kiffé ce moment-là. Daniel Auteuil est avec nous jusqu'à midi et demi, amoureux de ma femme. C'est le
titre. Pas de la vôtre, hein, de la mienne.
Ben ça, je ne sais pas, vous ne la connaissez pas encore. Jusqu'à midi et demi dans cette bande originale, si vous êtes en vacances, profitez-en. Si tu t'en vas, à quoi Serge, sur France Inter. T'en vas dans la
c'est bien
bande
les originale. C'est
bien. Ça m'a donné une pêche.
Mais comme disait Léla très justement, c'est rare les titres d'un quart d'heure. Reprise de l'air.
Attends, est-ce qu'il y a ses auditeurs? Ça, c'est
vivant. C'est ça la vraie question. Nous sommes avec Daniel Auteuil jusqu'à midi et demi pour son film Amoureux de ma femme qui sort en salle aujourd'hui même. Nous l'avons sur le plateau tout de suite. Attention, c'est l'humeur de Frédéric Sigrist.
Allez, Fred. Bonjour Daniel Auteuil. Alors, en voyant votre film hier, m'est revenu en tête ce verset de la Bible, Deutéronome 5, 21. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Surtout si elle veut pas, n'est-ce pas Tom? Et surtout si c'est la femme de Nagui, n'est-ce pas Daniel? Tout ça pour vous avouer que ce matin, sur cette antenne bobo-bolchevique athée, que oui, j'ai un gros passé religieux. Hein, souvent les gens me croient pas quand je leur dis ça, ils me disent « mais non, c'est pas possible ». Et puis je leur rappelle qu'il y a des croyants qui tirent sur des civils et la Kalachnikov, d'autres qui se tapent des enfants, et là ils reconnaissent qu'écrire des sketchs, c'est pas le truc le plus exceptionnel qu'un croyant puisse faire. Alors aujourd'hui, j'ai perdu la foi parce que je suis quelqu'un de distrait. Mais avec l'expérience, je me dis qu'être croyant, c'est un petit peu comme être conspirationniste. C'est-à-dire que rien n'est jamais dû au hasard. Sauf que pour les uns, ça va être la faute des Illuminati, des Juifs ou des francs-maçons. Pour les croyants, c'est Dieu qui est dans le coup. Hein, il t'arrive une merde,
c'est Dieu qui teste ta foi.
Il t'arrive un truc sympa,
c'est Dieu qui veut te remercier.
C'est la même logique. Rien n'est dû au hasard. J'irai même plus loin. Pour moi, finalement, un croyant, c'est un complotiste qui a réussi sa vie. Parce que dans une soirée, tu te fais aborder par un mec qui te dit tu sais, le 11 septembre, c'est un coup de la CIA.
Et
puis on n'est jamais allé sur... Ils ont tous cette voix-là. Et parce qu'ils essaient de se dissimuler. Tu vois. On n'est jamais allé sur la Lune, ils ont tourné ça en studio. Et le Bataclan, c'est le gouvernement français. Tu le regardes gentiment et tu l'invites très cordialement à aller se faire cuire le cul. Hein. Mais si dans une même soirée, tu tombes sur un gars qui te dit... Jésus-Christ est notre sauveur. Il est le fils de Dieu et de la Vierge Marie et il s'est sacrifié pour la rémission de nos péchés. Tu le regardes et tu lui dis, c'est un point de vue. C'est un point de vue. Je respecte, je partage. Je partage pas forcément, mais je respecte. Hein. Tant qu'à croire des plans cachés, il vaut mieux être croyant. T'es beaucoup plus respecté. Regardez, Emmanuel Macron et Donald Trump, ils dénoncent à longueur de journée les fake news parce que les sources ne sont pas fiables. Mais le Coran, la Bible et la Torah, excusez-moi, mais c'est pas hyper vérifié non plus comme source. Selon un récent sondage, 79% des Français croient au moins à une théorie du complot. Ça veut dire qu'il y en a forcément qui nous écoutent. Alors c'est assez facile de savoir si vous en faites partie. Si dès que vous avez entendu le terme conspirationniste, vous avez pensé « Ah, encore un chien de garde du système à la solde des merdias qui va nous expliquer que les complots n'existent pas », c'est qu'il y a de fortes chances que vous en fassiez partie. Mais attention, je ne dis pas que les complots n'existent pas ou que les gouvernements ne nous mentent jamais. Hein, j'ai pas les moyens de me fâcher avec 79% du public. Je dis juste qu'ils n'ont pas vraiment besoin de nous cacher quoi que ce soit, les gouvernements, parce qu'on n'est pas le peuple le plus rebelle du monde. Regardez dans quel système on vit. On s'endette sur 30 ans pour payer des baraques que nos gosses devront vendre parce qu'ils n'auront pas les moyens de nous payer une maison de retraite. On dit rien. On paye une fortune des aliments sans pesticides que nos grands-parents mangeaient parce qu'ils n'avaient pas de fric. On dit rien. On a financé avec nos impôts des autoroutes qui se font privatiser et sur lesquelles on repaie des péages. On dit rien. Vous croyez vraiment qu'il faut être Machiavel pour manipuler un peuple qui a pour série préférée Joséphine Ange Gardien et les Tuches? Le problème des conspirationnistes, c'est qu'ils sont convaincus que les politiciens, les marchés financiers sont supérieurement intelligents. Non, non, c'est nous qui sommes très cons. J'ai un pote conspirationniste, à chaque fois qu'il me parle d'un complot, j'ai fini par comprendre son argumentaire, il ne finit jamais ses phrases. S'il est lavé, Frédéric, Bernard Arnault, quatrième fortune mondiale, Lactalis, le lait infantile... Et là, je le regarde, je dis, quoi, je vois pas le rapport. Oui, bah justement, parce qu'ils veulent pas que tu vois. Le mec, il me dit toujours, faut pas croire la presse ou la télé, ça appartient à des marchands d'armes ou à des financiers. Et il va croire le blog d'un mec qui s'appelle Goldorak65. Alors, pour finir la discussion, je lui ai dit, moi, il y a quand même un truc qui me gêne dans tes théories du complot. Alors, si j'ai bien compris, le 11 septembre, c'est un coup des Américains. Le Bataclan, Nice, le Super U, ça sera un coup de l'État français. Mais qu'est-ce que t'essaies d'insinuer? Que le Moyen-Orient est pas foutu d'organiser des attentats sur l'aide de l'Occident? Comme quoi, conspirationnisme, je trouve ça d'un racisme.
Bravo, Frédéric Segrest.
France Inter. La bande originale.
Daniel Auteuil, toujours avec nous pour Amoureux de ma femme, votre film que vous réalisez, qui sort aujourd'hui sur les écrans. Je rappelle le casting, Sandrine Kiberlin, Adriana Ugarte et Gérard Depardieu. Je me demandais...
À bicyclette,
notamment, à table aussi, beaucoup, parce qu'il y a la scène forcément du dîner est centrale. Je me demandais, est-ce que c'est plus facile de réaliser un film sur un sujet qu'on a déjà mis en scène au théâtre, ou alors, au contraire, on a tellement de choses en tête par rapport à la mise en scène sur les planches que s'en détacher pour en faire un film, c'est plus complexe.
Alors, on commence à s'en détacher par rapport au théâtre quand on fait l'adaptation. Mm-hmm. C'est-à-dire que à partir du moment où on sait qu'on va faire un film de cinéma, on écrit le film se passe grâce aux rêves énormément en extérieur aussi. Ensuite, l'avantage de l'avoir joué, c'est qu'on sait, on connaît tous les points efficaces.
Ouais.
Donc, cela. Mais ça, on connaît tous les points efficaces du truc et on a le rythme général du film en tête. Ensuite, bizarrement, ce que devient un film par rapport au scénario, c'est quelque chose qui nous échappe aussi. Donc ce film-là a un rapport avec la pièce, certes, mais finalement c'est un cousin très éloigné parce que j'y ai mis des choses plus personnelles et qui me donnaient envie de que j'avais envie de raconter. Voilà. Donc c'est assez différent malgré tout.
C'est pour ça que vous avez changé le nom entre le film et la pièce d'ailleurs.
Oui, c'est parce que c'est pas réellement la pièce quoi. C'est un point de départ. On est parti des choses les plus drôles de la pièce, on les a gardées et ensuite on est allé essayer de trouver d'autres choses encore plus drôles mais différentes. Voilà.
Justement, l'adaptation, on en parlera tout à l'heure avec notre spécialiste David Mikanowski. Mais tout de suite, la bande originale de Daniel Auteuil. On commence dans les années 80. Daniel Auteuil, roi du groove à l'époque. George Benson.
Oui, George Benson, c'est la musique. J'avais mis en scène une pièce de Gérard Lozier, qui c'est Gérard Lozier, pour les plus jeunes. C'est un immense auteur qui aujourd'hui aurait du mal.
Bande dessinée et cinéma.
Bande dessinée et cinéma, très drôle. Qui avait un humour très, très corrosif. Et donc j'avais mis en scène une pièce de lui qui s'appelait Le garçon d'appartement. Voilà. Et la pièce commençait avec cette musique de George Benson, c'est Give me the night, donne-moi la nuit.
Et donc vous avez joué aussi dans ces débuts des années 80, notamment dans une comédie de Gérard Lozier, T'empêches tout le monde de dormir. Oui. Il y a eu d'autres comédies à succès, Les Soudoués.
Ce sont les comédies populaires.
Oui. J'ai adoré Les Soudoués de Claude Zidi, ou encore Les Hommes préfèrent les grosses de Jean-Marie Poiré. Vous racontiez dans une interview qu'à l'époque, c'était vous preniez les rôles sans forcément être très regardant sur le scénario. Même si ces films restent.
Mais c'est culte.
Oui, mais c'est pas la question. C'est qu'au moment où les rôles arrivaient...
On sait pas.
C'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire, c'est pas tellement sur le... Oui, c'est sur la personnalité du... Si, par exemple, je dis... Spielberg vient me présenter un film. Il me dit, c'est le premier rôle. Je vais pas dire, attendez, je vais le lire. Donc, voilà. Je veux dire qu'à cette époque-là, pareil. C'est-à-dire, ces gens sont dans l'air du temps. Donc...
Il faut accepter.
Et c'est comme ça que ça se passe même aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est pas un métier de... On construit pas une carrière, on n'est pas des hommes politiques. Il y a pas d'arrière-pensée, il y a juste des instincts et des moments des intuitions de plaisir. C'est tout.
Vous croyez qu'on n'en veut pas à un comédien d'avoir choisi des films, même s'ils marchent pas très très bien, mais ils sont estampillés tel réalisateur et donc ça construit une carrière aussi en alignant des noms aussi. C'est ça l'idée.
Ce qui construit une carrière, c'est d'être là 40 ans. Ce qui construit, c'est de faire des films. Ce qui construit une carrière, c'est de rencontrer des grands metteurs en scène. Ouais.
Et le public aussi.
Des grands metteurs en scène qui vont vous proposer des grands rôles et ces grands rôles et ces grands films, et des rencontres de public, c'est ça qui construit une fidélité comme ça avec le public. Et ces films-là, comme Les Soudoués, tout ça, sont des films qui m'ont permis de traverser toutes les décennies, parce que c'est un peu comme les chansons de Claude François. Ça traverse le temps. Ouais. Et Les Soudoués, c'est des films absolument cultes.
Et qui reviennent régulièrement à la télé, qui font des cartons.
Chaque année, c'est ça. Je me suis 10 ans après Les Soudoués, à la sortie, on m'avait demandé, mais monsieur, c'est vous qui jouiez dans Les Soudoués quand vous étiez jeune? Maintenant, on ne me le dit plus, parce que... mais il y a 30 ans, ça m'avait fait un choc, oui.
Bon, et ça va mieux maintenant.
Je trouve ça génial qu'un rôle qui a 30 ans, 40 ans. Donc, je suis content de me ressembler encore, quoi. C'est ça que je veux dire.
1987, changement d'ambiance musicale.
Ce soir, nous sommes septembre et j'ai fermé ma chambre. Le soleil.
Romy Schneider qui avait enregistré ce titre pour le film Les Choses de la Vie.
C'est
fou le nombre de comédiens qui viennent à ce micro et qui nous parlent de ce film.
De cette chanson.
Qu'est-ce qui veut dire pour vous ce film, cette chanson, sauter quoi?
Sauter, c'est son regard sur les femmes, sur les femmes, sur les histoires d'amour, sur la vie quoi. Ce que je veux dire par là, c'est que je reviens 30 secondes sur mon film Amoureux de ma femme, c'est-à-dire que on peut à la fois être dans le même film, avoir cette sensibilité là et être dans une comédie très 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 virulente, parce que la vie elle est faite de ces mélanges là et elle est faite de tous ces accidents.
Et Sauter vous a dirigé?
Deux fois. Et au-delà de m'avoir dirigé deux fois, pendant 13 ans, ça a été mon ami, voilà, pendant 13 ans, au téléphone, tous les jours, j'ai parlé avec lui, et voilà, j'ai eu quelques rencontres comme ça qui m'ont éclairé, qui me permettent aujourd'hui, modestement, mais avec joie, de faire, de passer à la mise en scène, quoi. C'est-à-dire que ce que j'ai appris de ces gens-là, j'ai envie de le rendre aussi, voilà. Donc c'est pour ça que je fais des films.
Et vous dites aussi qu'en tant que comédien, Sauté, il vous a donné accès à la parole. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est...
Ouais, peut-être qu'il a eu tort.
Sinon je vous poserai pas la question.
ça veut dire que j'ai été très longtemps dans l'incapacité de m'exprimer, soit par timidité, soit parce que chez moi c'était Dany, mes parents m'appelaient Dany. Dany, ne dis rien, ne te mêle. Donc je me suis mêlé de rien, j'ai rien dit pendant des années, et donc ça a constitué chez moi une espèce de carapace comme ça où je savais faire les choses, mais je n'avais pas besoin de passer par la parole. Et lui, il me disait, mais Coco, pose des questions. Mais j'avais pas de questions précises à lui poser. Je savais que et voilà, il m'a appris peu à peu à m'exprimer, à exprimer, ouais, des sentiments, des idées sur notre travail. Voilà.
Et 87, c'est aussi l'année du César.
87, ouais. Oui. Et alors,
30 ans avant Camélia Jordana.
Oui, c'est ça.
Vous avez senti ça comme un encouragement, comme
vous... Oui, c'est ça. C'est ça. Oui, c'est ça, c'est ça. Il m'a été remis par Audrey Hepburn, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Je me souviens que je lui écrase un pied et qu'elle ne dit rien. Ah, elle sourit.
Le professionnalisme.
Non, les sabots, c'est tout, elle n'a rien senti.
Triple fracture, mais bon, le sourire.
Non, je suis comme un jeune fou, comme un fou de bonheur, ça. Et je suis allé là, elle me donne le truc. Et voilà, donc je me souviens de toutes ces choses-là.
On passe en 2004, et là vous obtenez un diplôme en 2004, votre diplôme de flic au cinéma.
Vous avez eu un peu le...
Ouais, malin. C'est réfléchi tout ça.
C'est réfléchi, rien n'est du hasard. C'est pour 36 quai des Orfèvres.
Ouais, un diplôme et la reconnaissance de... donc on était crédible avec Gérard dans ces rôles-là, parce que...
Un film d'Olivier Marchal.
D'Olivier Marchal.
36 quai des Orfèvres.
Ouais, oui, parce que dans les commissariats, tout ça, partout, il y a des affiches de... Il y a à la fois des affiches de...
De Orbalmondo.
Ouais, c'est ça. Donc, à l'époque où je conduisais, ça brandait service.
Bravo, Daniel. Non, mais c'est vrai qu'Olivier Marchal a été celui qui a relancé le polar,
oui,
en fait.
C'est-à-dire que tous les 10 ans, tous les 15 ans, le polar est un genre qui appartient à la télé. La télé, ça appartient à la... Et tous les 10 ans, il y a un metteur en scène. Donc, de ma génération, à l'époque, celui qui relance le polar, c'est Bob Swain avec La Balance. Et moi, à l'époque, je suis in, je fais un film qui s'appelle Lundi. Je me rends pas compte à l'époque que c'est une série B, que c'est un remake. Mais je suis tellement content de faire du cinéma que je m'en fous. Et après, je comprends pas pourquoi j'en prends plein la gueule, mais j'ai réalisé des années après. Voilà. Donc, voilà.
Et vous avez tourné à plusieurs reprises avec Olivier Marchal, puisque vous n'êtes pas arrêté à 36 quai des Orfèvres. Il y avait MR73 ouais, aussi.
Et Olivier Marchal, c'est le polar festif, c'est le polar enjoué, joyeux.
Non, MR, c'est un film très noir. C'est un opéra noir comme ça. C'est un film magnifique. Mais 36, c'est très fort aussi. Voilà. Enfin, c'est après les autres aussi qui fait son bien, mais ceux-là sont vraiment bien.
Les films de genre, ça vous tente encore? Vous avez, il y a des genres en particulier que vous aimeriez explorer?
Alors j'ai exploré. Oui, mais non, il faut que l'histoire, je veux dire que le sujet, voilà, j'ai pas forcément envie de faire. Par exemple, on pourra jamais faire des westerns, nous, en France. C'est dommage.
Pourquoi?
Parce que c'est pas...
Parce qu'il y a eu le bossu.
Ah oui. Non, parce
mais c'est vrai que souvent, on parle de western. On parle des comédiens, les réalisateurs, leur fantasme absolu, c'est le western.
Oui, c'est le western. Oui, c'est ça. Nous, on a les films de KPDP. Sinon, on a les films campagnards.
Eh ben revenons plutôt. Revenons plutôt à votre film Amoureux de ma femme, Daniel Auteuil, pardon, qui est en salle aujourd'hui, et on va en parler davantage avec notre invité spécialiste David Mikanowski. Bonjour David.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, spécialiste de cinéma. Vous contribuez au Point Pop et justement, on vous a fait venir pour discuter avec vous de ces adaptations de plus en plus fréquentes. Alors on voit le mouvement de la littérature au grand écran, eh bien il y a également ce mouvement des planches au grand écran. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de pièces de théâtre connues ou qu'ils sont devenus, qui ont été adaptées au cinéma ?
Alors, Leïla, je vais répondre à votre question.
C'est gentil.
Merci.
Mais auparavant, j'aimerais dire un petit mot sur le Point Pop. Alors, le Point Pop, c'est quoi ? C'est le site du Point consacré à la culture pop, la culture populaire. On y parle de cinéma, séries, musique, littérature, bande dessinée, jeux vidéo. Et j'encourage les internautes et les auditeurs de la bande originale à cliquer sur le site.
La prochaine fois, David, demandez-moi, je l'aurais fait. Ça serait mieux passé, je pense. Parce que là, ça fait un peu auto-promo, c'est bizarre. Mais allez donc voir le Point Pop.
Mais pas du tout, Leïla.
Non, pas du tout.
Je prêche pour ma paroisse.
Oui, mais dites-le-moi, j'aurais prêché pour vous. Le fait à chaque fois.
Alors, je reviens à votre question.
Oui, merci. Mais alors,
excusez-moi de vous interrompre, mais ça a toujours existé, c'est-à-dire le cinéma vient de là. C'est ça que vous vouliez dire ?
Oui.
Ouais. Ben voilà. Ben en fait, merci.
Si on faisait un Point Pop.
Alors David, alors, quelques pièces, voilà, quelques exemples.
En France, les adaptations cinématographiques de pièces de théâtre se divisent en trois catégories. Il y a le répertoire classique, les pièces de boulevard et le café-théâtre.
D'accord.
En gros, si je donne des exemples, répertoire classique, Cyrano de Bergerac avec Gérard Depardieu, pièce de boulevard, Le Dîner de con, voilà, et café-théâtre, Le Père Noël est une ordure.
D'accord, ok, donc voilà, ça s'illustre dans les trois catégories, les trois sous-genres que vous avez distingués. Est-ce qu'un succès au théâtre
j'aimerais bien que le succès de l'envers du décor déboule au cinéma, parce que ça veut dire que mon vieux ça dépote.
Il y a aussi les films déboule.
Merci Albert. David, faites comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu. Alors est-ce que un succès au théâtre ça donne un succès au cinoche?
Alors il y a absolument il n'y a absolument aucune recette, évidemment non. Et je n'ai pas d'exemple malheureusement, mais...
Alors les plus grands succès, vous avez parlé du Dîner de con, vous avez parlé de Cyrano de Bergerac, Père Noël.
Il y a eu beaucoup de succès. Ces dernières années, on a vu triompher au cinéma de nombreux pensionnaires de la comédie française. Des gens comme Guillaume Gallienne, Laurent Lafitte ou Pierre Niney. Et
Michel Villermoz aussi.
Exactement. Et il faut remonter, si on parle du répertoire classique français... Il faut revenir sur Cyrano de Bergerac parce que c'est vraiment une date importante. C'était pas évident de monter ce film. Pourquoi ? Parce qu'il est en alexandrin.
Oui.
Et les gens, les producteurs, les financiers, ils avaient un peu peur. Et finalement, Jean-Paul Rapneau a été perspicace.
Il a bien fait.
Et voilà, il y a la tirade du nez, la double déclaration d'amour sous le balcon de Roxane.
Ouais.
Et le film est extraordinaire.
Et c'est porté par un monstre. C'est porté par Gérard Depardieu, qui est là au sommet, puis c'est un de ses plus beaux rôles, et par cet immense metteur en scène, quoi, qui a le sens du rythme, de la musique et toutes ces choses-là, quoi.
Alors David, on voit souvent que le casting théâtre n'est pas forcément conservé au cinéma.
Non.
Comment on explique ça ? On a vu le cas avec Momo, sur scène, Robin Berléand, et au cinéma, ça sera Clavier et Catherine Fro. Mais pourquoi est-ce qu'il y a autant de modifications entre la scène et le grand écran ?
C'est un problème tristement économique. Il faut choisir des acteurs bankable.
Pour Momo, ça a été le cas.
Donc. Bah oui, François Berléand, c'est un acteur merveilleux.
Ouais.
Mais voilà, en prenant Christian Clavier, qui avait fait 11 millions d'entrées avec Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, le film était plus facile à produire, j'imagine. Ouais. Mais c'est le cas. Prenons la pièce Le Prénom, par exemple, avec Patrick Bruel. Charles Berling remplace Jean-Michel Dupuis. Par exemple, sur les planches.
C'est une question de notoriété sur le grand écran. Est-ce que vous vous êtes posé cette question-là ? Là, vous nous avez dit tout à l'heure, vous, Daniel, que vous avez choisi les personnes avec qui vous aviez envie de tourner, mais est-ce qu'éventuellement, les producteurs qui vous ont accompagné pour ce film ont commencé à suggérer des noms ou à vous dire...
Non, parce qu'ils ne pouvaient pas imaginer que Gérard Depardieu pourrait venir. Je veux dire que c'est... On me laisse libre de choisir et tout ça. Donc c'est un choix délibéré, une envie. Ouais. Donc j'avais passé presque 2 ans avec mes camarades au théâtre et j'avais envie là. C'était un choix délibéré de tourner avec Gérard Depardieu, Sandrine Kiberlain et Adriana Urgat. Voilà.
On voit David que en littérature, souvent les droits sont achetés avant même que le bouquin soit publié. Est-ce que on peut observer ce même mouvement au théâtre, à savoir acheter les droits d'une pièce pour pouvoir la transposer au cinéma?
Oui, et des fois, il y a des cas particuliers. On parlait de Cyrano de Bergerac. Il se trouve qu'en 1984, les droits sont rentrés dans le domaine public. C'est-à-dire que ce n'était plus les ayants droit ou la famille d'Edmond Rostand.
Tout le monde pouvait s'en emparer.
Tout le monde s'en emparait. Les producteurs se sont jetés dessus, mais ça a mis quand même quelques années à se faire. Et c'est René Kleitman, le producteur de Tenue de soirée, sous l'impulsion de Gérard Depardieu, qui a accepté de faire le film.
Est-ce que c'est un pari risqué? Je pense à Alexis Michalik, qui a triomphé sur scène avec Edmond. Il va adapter son propre texte au cinéma, alors qu'il n'a jamais réalisé. Donc c'est vrai que c'est quand
Est-ce
même...
Est-ce que c'est une bonne idée, David?
Alors, le cas de Edmond, d'Alexis Michalik, c'est particulier, parce qu'à la base, à l'origine, c'était un scénario de film. Michalik voulait faire un film, il n'a pas réussi à le monter, et donc du coup il l'a transformé en pièce de théâtre qui s'est jouée au Palais Royal, car ça a rapporté 5 Molières, dont celui du meilleur spectacle de théâtre privé.
Incroyable.
Et ensuite, vu le succès de la pièce, il en fait un film. Alors c'est Thomas Oliver qui vient d'interpréter Spirou au cinéma, qui vient incarner un jeune Edmond Rostand de 29 ans, au moment où il écrit sa pièce Cyrano de Bergerac, alors que sa carrière peine à prendre son envol. Et Michalik parle ici de la difficulté de créer.
C'est plus Guillaume Santou, du coup, qui...
Non, c'est plus, non, c'est Thomas Oliver. Ouais.
Voilà, il y avait Guillaume Santou sur les planches du duo d'humoristes Garnier Santou.
Ouais.
Et désormais, c'est plus lui.
Mais ouais, allez-y, Fred.
Pourtant, en termes de bancabilité, même si j'aime pas trop le terme, Guillaume Santou, il avait quand même une aura auprès du public avec On ne demande qu'à en rire et tout ça, qui est à peu près équivalente à un Thomas Oliver.
Ah, le voilà, lui.
Mais Thomas Oliveira, c'était peut-être plus in.
Et dernière question, David, après on vous libère, c'est promis. Pour Momo, Sébastien Thierry, qui a écrit ce texte qu'il avait porté au théâtre et qui le conduit au cinéma, a décidé d'être co-réalisateur, de se faire accompagner. Est-ce que ça aussi, c'est une tendance du moment de vouloir mettre la main dans le cambouis et de s'essayer à un nouveau métier? Parce que c'est quand même pas la même chose. Daniel Auteuil, c'est pas pareil, il avait déjà réalisé d'autres films, donc il en est pas à son coup d'essai. Mais j'imagine que ça aussi, c'est
non, mais il faut bien commencer.
Mais voilà. En co-réalisateur, peut-être, non?
Non, mais parce que il a ce garçon a sûrement un talent, il a une originalité et il est porteur de ce projet et il a su convaincre. Quoi, ouais. Voilà. Donc je suis pas du tout inquiet pour ce projet.
Oui, non, je pense qu'en fait, la mise en scène de théâtre et la réalisation de cinéma, c'est deux choses totalement différentes. Il y a une technique, ne serait-ce que l'usage des objectifs, des caméras, etc. C'est bien qu'il soit accompagné par un technicien.
Pour une première fois.
Voilà, je trouve ça plus rassurant pour lui.
Et pour le producteur, j'imagine aussi, parce que je pense qu'il est quand même souvent question de ça. Merci beaucoup, David Mikanowski. Je rappelle que vous êtes... Vous êtes spécialiste de cinéma. Allez cliquer sur le point pop. On y parle d'un peu de tout. Vous avez bien compris. Merci à vous, David, pour cette précision.
Merci, Laïla. On y parle de tout.
Voilà.
Vous en rendez compte par vous-même. Ah, le voilà, lui, je cite Daniel Auteuil. Il parlait de Tanguy Pastureau qui vient de faire son entrée dans le studio et qu'on retrouvera en deuxième heure après les infos. Mais Tanguy, vous le savez, j'adore la publicité.
Oui, et ça explique les CV que vous envoyez à Europe 1 en leur disant « Prenez-moi par pitié, j'ai besoin d'argent ». Alors la pub, ça ne sert à rien, notamment celle pour les chips, hein, puisque l'homme a naturellement envie de manger des chips. Et pour en étudier les mécanismes, des chercheurs ont testé, figurez-vous, des pubs sur des singes, ces êtres qui ont les fesses toutes rouges, comme nous quand on fait trop de Vélib. C'est de ça dont je vais vous parler à midi.
Ah bah dis donc, on a hâte pour l'instant, les infos sur France Inter. Merci Laetitia Gaillet. Retour de l'information avec le journal de 13h. C'est le retour de la bande originale avec Albert Agou, Frédéric Ségriste, Tom Villard,
Jean-Guy Pastureau dans quelques instants. Ma traité d'info, il est là, Kado Ramboulali est avec moi.
Salut Daniel Morin, notre invité est toujours Daniel Auteuil.
Bonjour.
Daniel Auteuil, amoureux de Ma femme, au cinéma, à partir d'aujourd'hui, une sortie très attendue avec un très beau casting, Sandrine Kiberlain, Adriana Ugarte et Gérard Depardieu quand même. Vous alignez des noms là, hein, sur ce coup-là, à tous les quatre là.
Ouais, mais des amis et l'envie de effectivement des grandes pointures, des gens qui sont exactement le rôle, mm-hmm. mais ils pourraient être aussi tous les rôles parce que ce sont des immenses acteurs.
Gérard Depardieu dans le rôle de votre femme, j'aurais aimé.
Je pense qu'il peut jouer.
Il l'a fait déjà, rappelez-vous. Avec Michel Blanc.
Il peut tout faire.
Et donc, je veux dire que ça a été absolument délicieux, ce plaisir de jeu. D'ailleurs, je faisais souvent des plans en séquence de façon à ce que le plaisir du jeu ne soit pas interrompu. C'est un casting exceptionnel, je le reconnais. Mais j'ai du mal à voir ça d'une façon...
C'est des gens
que j'aime tellement, quoi. Voilà.
Alors, on rappelle quand même un petit peu l'histoire.
Je vous laisse faire.
Alors, ceux qui ont déjà vu L'Envers du Décor au théâtre ne seront pas surpris, puisque c'est un film qui a été adapté de cette pièce de théâtre par vous, Daniel Auteuil.
Par Florian Zeller.
Absolument. Vous incarnez un couple avec Sandrine Kiberlain. Tout se passe plutôt bien. Vous avez quoi, la cinquantaine et...
55, 56.
Assez comédien.
Mais non, c'est très bien la cinquantaine, on va dire ça comme ça, tout le monde se repère.
La grosse.
Et jusqu'il y a quelques mois encore, vous entreteniez une relation amicale avec un autre couple composé de Gérard Depardieu et de cette compagne de l'époque qui était la meilleure amie de votre femme, Laurence.
Que vous aimez beaucoup.
Sauf qu'il y a eu séparation et comme toujours quand il y a séparation, les couples amis se retrouvent bien embarrassés. Faut-il continuer à voir celui qui a quitté ou alors montrer une forme de loyauté et de solidarité à celui qui a été largué? En gros, le problème se pose puisque votre femme est la meilleure amie de Laurence, donc elle voit d'un mauvais œil la présence chez elle le soir lors d'un dîner de Gérard Depardieu, cet ami du couple, et de sa nouvelle compagne.
Gamine de 30 ans.
Qui est une beauté, il faut le dire.
Elle accepte parce qu'elle a une idée derrière la tête.
Elle accepte parce que elle a l'intention de ne pas laisser les choses s'empirer et surtout elle veut comprendre et elle ne veut pas que moi-même je sois victime de ce démon là et elle va manipuler les cartes toute la soirée pour que malgré les choses que je vais imaginer, elle va tout faire pour que je me débarrasse de mon ami, voilà.
Parce qu'une imagination débordante, c'est bien le cas, c'est vraiment le propre de votre personnage. Et quand vous voyez arriver cette jeune femme sublime, incarnée par Adriana Ugarte, forcément, vous commencez à imaginer quelle pourrait être votre vie ensemble.
D'abord, je la vois nue, d'abord.
Oui, c'est vrai.
Tu enlèves sa robe délicatement à l'apéro.
D'entrée, voilà.
Une façon de dire bonjour.
Oui, oui. Mais en même temps, je n'y peux rien. Je veux dire qu'on n'y peut rien. On ne peut pas mettre un gendarme dans la pensée.
Non, voilà. Forcément, voilà. C'est ça.
Et ma femme aussi la voit différemment que moi.
Elle la voit comme une entraîneuse dans un bar.
Oui. La particularité, donc, effectivement, de ce film, c'est de mélanger à la fois la vie réelle et les pensées jusqu'à ce que le spectateur ne sache plus s'il est dans la réalité ou dans la fiction. Voilà.
Et ça marche. Le trouble fonctionne. Ouais. Je me suis demandé à plein de reprises si il s'était passé quelque chose entre vous et Adriana Ugarte ou alors si c'était...
Il faut pas, oui, mais voilà. On ne sait pas.
Et on ne sait pas.
Moi-même, je ne sais plus.
Et vous ne savez plus. On est perdu.
Vous l'avez tourné le film pendant
vous. Vous l'avez joué cette pièce. Voilà, en tout cas.
Vous appelez Daniel Auteuil et votre film sort aujourd'hui.
C'est vrai?
Oui, absolument. Et lui, il s'appelle Tanguy Pastureau et tout de suite, il maltraite l'info. Tanguy Pastureau. Allez, Tanguy, les singes sont des animaux
Fascinant.
Oui, car elles nous ressemblent, mais en plus libre. Quand ils ont envie de se gratter, ils se grattent. Quand ils ont envie d'hurler, ils hurlent. Et ils n'ont pas besoin du buffet flunch comme nous, puisqu'ils mangent les petites bêtes qu'ils ont sur eux. Si DSK, à la grande époque, avait fait la même chose avec les siennes, ils pouvaient se dispenser d'aller chez Auchan pendant 4 ans. Les singes ont donc une qualité de vie dont chez nous, seuls les zadistes ou les nudistes peuvent jouir. C'est-à-dire qu'ils sont à la cool dans la nature, cet espace vierge qu'on abat pour produire de l'huile de palme. Donc l'homme qui déteste qu'une autre créature profite plus que lui. Ça va des cheminots dont il faut démanteler les statues, aux rhinocéros tués pour leurs cornes parce que 14 cons à l'autre bout de l'Asie pensent qu'une fois ingérés, leur oui-oui va se transformer en tour Eiffel. Alors qu'au mieux, ils auront une tour de Pise branlante. Bref, l'homme a décidé de pourrir la vie de son cousin, le singe. Et donc, on s'est mis à tout tester sur eux. Chez Volkswagen, ils leur ont fait renifler des pots d'échappement. Depuis, 100% des singes préfèrent le vélo. La politique d'Anne Hidalgo est plébiscitée aux eaux de Vincennes. C'est le seul endroit, d'ailleurs. On teste dessus tous les médicaments. Et là, les scientifiques se sont dit, c'est pas encore assez, il y en a deux, trois au fond qui dorment au soleil sur une pierre, il faut trouver autre chose. Un anthropologue américain, Michael Platt, un type qui n'a pas de relief, a donc voulu tester sur les singes la publicité. Hein, ces petits films super, malheureusement entrecoupés à la télé de longs métrages ginettes. Il a constaté que nous, humains, avions dans nos pubs, un, du sexe, deux, des stars, voire des sex-stars, si Rocco Siffredi accepte de faire tourner le sien, enfin je veux dire autrement, de la position de l'hélicoptère de Milan. Et là, il s'est dit, si ça se trouve, les singes ont les mêmes centres d'intérêt que nous. Il a pris des singes, leur a montré des photos d'organes reproducteurs du sexe opposé. Paf, stimuli, le cerveau des singes s'est mis à chauffer, telle la centrale de Fessenheim quand on nous dit qu'il n'y a aucun incident à signaler. Les singes sont très chauds. Hein, vous les lâchez 12 minutes sur YouPorn Monkey, alors ils vont voir les catégories, avec banane, la tête en bas, attachée avec une liane, et implosent de désir. Puis il a fait la même chose avec les humains, en leur proposant soit de l'argent, soit moins d'argent, mais en contrepartie la possibilité de voir des photos de gens attirants. Ophélie Meunier, Ryan Gosling, Gérard Collomb, 80 ans. Et les hommes ont accepté d'avoir moins d'argent mais une photo haute, tandis que les dames, 80% moins. C'est-à-dire que si ici on nous dit je retiens votre salaire mais par contre voilà une photo de Leïla en body panthère, on dit tous ok. Par contre si on propose à Leïla le même deal, elle répond t'es malade, voir Morin en slip, Martine va fondre à bout l'argent.
Ça veut dire que la leçon de cette expérience, Tanguy, c'est que les singes réagissent comme nous.
Oui, il y a un truc qui se produit dans la tête dès qu'on voit un demi-cul ou un téton, qui fait que même si une bimbo fait une pub pour des betteraves rouges, on a envie d'en bouffer. Autre expérience, chez nous, les stars font de la pub. Hein, Stéphane Bern, les vérandas, Geneviève de Fontenay, les baignoires à porte. C'est comme une baignoire normale, sauf que ça arrête les témoins de Jéhovah qui voudraient profiter de l'eau chaude. Alors plein de stars en font. Éric Cantona a fait le rasoir Bic, puis Neuf Télécom, puis Nike, puis Cronenbourg, avant de réaliser qu'il était contre le capitalisme. Heureusement, après encaissement d'échecs. Et voir des stars dans les pubs crée un stimuli. Hein, c'est quand j'ai vu Clooney pour Nespresso que j'ai décidé de boire du café. Avant, je prenais du Nesquik. J'ai hésité. Clooney, Quickie le lapin, lequel de mes deux modèles suivre? Puis j'ai choisi Clooney parce qu'il était moins beau. Donc je m'identifiais plus. Seulement, les singes n'ont pas de star. Hein, depuis que King Kong a été abattu parce qu'il refusait de prendre l'ascenseur. Donc on a montré aux singes des logos de marques. Hein, McDo, Adidas, Feta Salaki. Voilà, ils n'ont pas réagi. Puis on a ajouté à côté de ces marques la photo d'un singe dominant. Hein, c'est celui qui a pas l'air commode et qui a des poils. Chez nous humains, ce serait Philippe Martinez de la CGT. Eh bien, les singes ont réagi positivement au logo, puisque l'image du dominant les a sensibilisés à la marque. Hein, pour nous, c'est pareil. Vous faites une pub pour Harpic avec Mélanie Laurent qui passe la brosse, ça incite plus à gratter la cuvette que si c'est Agnès Buzyn qui le fait, puisqu'elle n'est pas connue. Les stars chez les humains sont donc les dominants chez les singes. Ce qui fait que Daniel Auteuil, par exemple, hein, qui est une superstar, a de la chance d'être un homme. Puisque si c'était un primate, pour avoir le même impact, il devrait faire pipi partout autour du studio tout en se frappant le torse, en hurlant. Plus on grimpe en notoriété, plus on domine. Donc en théorie, Daniel Morin, oui, qui n'est connu que des auditeurs de France Inter qui écoutent la session depuis juin 82, là vous devriez vous coucher par terre sur le dos avec les oreilles baissées pour montrer que vous n'êtes rien, hein, tandis que Daniel Auteuil vous saute à pieds joints dessus en hurlant « Je vous nique tous, j'ai fait 114 films ». Mais nous ne sommes pas des singes, c'est pourquoi au lieu de nous courir après tout nu, tandis que le public nous jette des pistaches, nous allons continuer cette émission de manière soi-disant civilisée, puisque nous, comme les singes, aimons les stars et le sexe, hein, c'est tout. Alors c'est pas la peine de tant se prendre de sérieux.
Bravo, tant de passion.
Vive les singes.
La bande originale sur France Inter.
Donc le singe dominant dans ce studio, c'est Daniel Auteuil.
On retiendra Monsieur Platt, quelqu'un sans relief.
Voilà, par exemple, notamment pour cette chronique de Tanguy Pastureau, Amoureux de ma femme au cinéma aujourd'hui, un film de Daniel Auteuil avec Gérard Depardieu, Adriana Ugarte et Sandrine Kiberlé. On a parlé tout à l'heure de la musique que Thomas Dutronc a composée rien que pour vous, pour ce film. On a évoqué aussi Gérard Depardieu qui fredonne du bout des lèvres Barbara. Eh bien, il fallait quand même parler de vous, puisque Daniel, vous aussi, vous vous prêtez d'une certaine façon à l'exercice.
Yo, te quiero mucho.
Quel timbre.
Te quiero tanto.
C'est un timbre terré parce qu'il est très amoureux.
Et tout le monde est sous le charme.
Ça marche.
En tout cas, dans le film, oui, parce que c'est moi qui veut que ça marche.
C'est très romantique.
Bien joué, ça marche.
Oui. Là, il a amené sa nouvelle fiancée, donc la fiancée de Gérard. Il a amené parce que à un moment donné, Gérard elle se plaint à Gérard. Elle lui dit, mais j'aimerais bien lui présenter mes parents, mais il veut pas. Il dit, oh chérie. Et tout d'un coup, moi, je pars en Espagne. Et je me présente toute la famille et tout ça, et je prends une guitare et je chante en espagnol, et voilà.
Est-ce que vous chantez, vous, dans la vie, Daniel Auteuil? Parce que vos parents étaient chanteurs.
Mes parents étaient chanteurs. Moi, je
vous avez sorti les 45 tours.
Oui, j'ai fait un peu des comédies musicales, tout ça, mais comme vous avez vu, je me suis arrêté.
Pourtant, quel organe.
Non. Est-ce que je chante? Oui, je chante. Oui, je chante un petit peu chez moi. Oui, comme tout le monde, quoi. Voilà. Mais c'est pas mon mode d'expression.
Non, mais là, vous mettez en scène en train de chanter. Tout de suite.
Oui, c'est ça, bien sûr. Bien sûr. Tout ce que je raconte dans ce film n'existe pas.
Pourtant, c'est d'une beauté, c'est d'un romantisme. Daniel Auteuil qui chante.
Non, la seule chose.
Voix légère en espagnol.
Non. Le film exhale les sentiments. C'est-à-dire que ça parle davantage de sentiments que d'autres choses. On s'aperçoit bien que la vie tourne toujours autour de l'avantage du sentiment amoureux. C'est que lui ne vieillit pas, ne change pas. C'est-à-dire que ce sentiment vous porte et vous savez pas l'âge que vous avez, quoi, puisque il est éternel. Donc, ce film raconte aussi ça un petit peu. Voilà, c'est ça.
Amoureux de ma femme qui sort en salle aujourd'hui, hein, le dernier film de Daniel.
Mal à l'aise.
On ne sait pas ce que c'est l'amour avec Daniel.
Ne sais plus. Losing My Religion, R.E.M. sur France Inter.
Brought me to my was just a dream. That was just a dream. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion. Trying to keep up with you. And I don't know if I can do it. Oh no, I've said too much. I haven't said.
Losing My Religion, R.E.M. sur France Inter, dans la bande originale.
Comment tu dis, Daniel?
R.E.M.
R.E.M.
Tu dis quoi?
R.E.M.
Amoureux de ma femme, c'est signé Daniel Auteuil dans une bande originale toujours désertée par Nagui. Du coup, j'ai demandé à Leïla, la douce Leïla, de venir me filer un petit coup de main. C'est gentil, ma douce. Comment allez-vous, Jean-Jacques?
Il est sympa. Moi, je pensais que c'était plus ou moins qu'il va demander un coup de main à Daniel Morin. Après, c'est pas grave. Chacun sa compte son histoire.
C'était vraiment sympa.
Donc, il va y avoir
c'est le rêve de
Jean-Jacques.
Cher Leïla, cher Daniel, Morin et Auteuil, si je ne craignais pas d'être taxé de filouterie, de grivellerie, de duperie, de tromperie, d'escroquerie, bref, des tas de trucs en riz, je vous inciterai à respecter une minute de silence en hommage à Mike Brandt, inoubliable interprète de Qui sera, laisse-moi t'aimer, c'est comme ça que je t'aime. Mike, cher Mike, qui nous quitta hélas un 25 avril en 1975.
Pourquoi Jean-Jacques, on risquerait de vous taxer de filouterie?
Mais parce que cette minute de silence, faisant partie de mon sketch, je toucherai des droits d'auteur sans pour autant dire un mot. C'est vrai. Ceci dit, en ce moment, le soir, quand je rentre chez moi, eh bien, tout en sirotant une infusion, les deux marmottes cocktail transit, à base de pissenlit, lin et baie de sureau, je réécoute les vinyles de Richard Anthony, dont l'impérissable amoureux de ma femme.
Aujourd'hui, je suis amoureux.
Voilà. Vous pouvez couper. Et surtout, j'écoute des disques de Mike Brandt que j'ai conservés pieusement. Donc, hier soir, après avoir bu mon infusion cocktail transit, avant de me mettre au lit, j'ai placé sur mon tourne-disque Tepaz la face A de mon 45 jours préféré de Mike. C'est ma prière. Mais voilà, on peut couper aussi. Et quand j'écoute « C'est ma prière », je me recueille. Et quand je me recueille, je ferme les yeux. Et quand je ferme les yeux, je m'endors. Et quand je m'endors, je rouvre soudain les yeux, je saute du lit, car les effets de l'infusion cocktail transit se font sentir, c'est le cas de le dire, et c'est alors la grande course à la porcelaine. Quand je reviens dans ma chambre, je me recouche, je remets le disque en marche, et cette fois, en écoutant « C'est ma prière », je me recueille à nouveau, je ferme les yeux, et quand je ferme les yeux, je m'endors, et quand je m'endors, je rêve. Dans mon rêve, je rencontrais le père Albert qui errait dans les couloirs de France Inter. Oh, Gigi, aujourd'hui c'est la Saint-Marc, pas la lessive bien sûr, mais l'évangéliste. Écoute ça, si avant de s'endormir, on adresse une prière à Saint-Marc, on aura peut-être dans un songe une indication sur la date à laquelle on doit mourir. C'est une chouette info. Alors, j'ai une super proposition à te faire. Toi et moi, nous allons essayer de nous endormir ensemble. Mais avant, tous les deux, pour que ça ait plus de force, ensemble, nous allons prier Saint-Marc. Et ainsi, quand nous rêverons, nous apprendrons peut-être à quelle date, toi et moi, nous sommes appelés à rendre notre âme à Dieu. Mais enfin, Père Albert, j'ai nulle envie de savoir quand je dois avaler mon bulletin de naissance et manger les salades par le trognon. Et de toute façon, je suis déjà en train de rêver et je ne tiens pas à me compliquer ma life en imaginant que je rêve, que je rêve, que je rêve. Dépité par mon refus, le Père Albert s'éloignait déjà quand je fus interpellé de façon autoritaire par Jean-Roger Navarro, le neveu du célèbre policier, entre parenthèses, qui restera jamais le plus vieux commissaire de police du monde. Jean-Roger, officiant quant à lui, en tant que vigile à France Inter, chargé de la protection des invités de marque comme Daniel Auteuil. Alors, toi, viens là que je t'interroge. Je vous prierai d'avoir l'extrême obligeance de bien vouloir accepter de me dire à quel sujet vous comptez m'interroger, mon cher Roger. Primo, Thierry Malacon, tu te les gardes pour toi. Tezio, les questions, c'est moi qui les pose. Donc, tu vas me dire, fissa, si t'as croisé un escroc, un enfant de putain qui fait gober à ceux qui sont assez cons pour l'écouter, qui peut leur prédire à eux la date de cancer qu'ils vont canoncher et qui vont aller bouffer les pois chiches par la racine. Cher Jean-Roger, n'étant pas né sous le signe de la balance, comme disait Bob Swain, cité tout à l'heure par Daniel Auteuil, c'était pas mon rêve, ne comptez pas sur moi pour jouer les sycophantes. Je veux dire, les donneurs, les délateurs, les dénonciateurs, les rapporteurs, les cafeteurs, les indicateurs et plein d'autres trucs en terre. Un carbi, je te jure, tu sais, Gigi, excuse-moi le jeu de mots, mais les langues, j'en ai délié plus d'un. Plus d'une. Tu vois, ça c'est le bottin de Babelouette que mon oncle Navarro, il s'en servait à lui dans ses interrogatoires poussés à la PJ pour faire cracher leur merguez au salawetch qui cuisinait. Mais ma parole d'honneur, sans laisser de traces. Alors je vais te montrer comment ça marche, en cas que tu recouvriras pas la mémoire. Ça, t'entends? C'est ta tête.
Non.
Ça, c'est le bottin de Babelouette. Et ça, c'est le bottin sur ta tête. J'allais honteusement dénoncer le père Albert. J'avais oublié le bouquin. Je vais honteusement... dénoncer le père Albert, oui. Quand je fus réveillé par des coups frappés à ma porte. C'était mon cousin Jack qui était rentré plus tôt que prévu d'un after au Banana Café, after lors duquel il avait écouté. Et voilà, c'est terminé. Bonne fin à l'émission.
Merci Jean-Jacques, sacré rêve.
France Inter. La bande originale.
Merci en tout cas Daniel Auteuil, il est temps de vous présenter des excuses.
Ah, tout le monde présentait des excuses, désolé pour tous les réalisateurs qui avaient prévu de faire travailler le comédien Daniel Auteuil et qui ont découvert qu'en dehors des films qu'il réalisait, il se foutait complètement de la promo. Désolé pour Daniel Auteuil, cette fois, j'ai eu le comité du pitch à la pause et le secrétaire général du comité du pitch m'a confirmé que côté pitch, vous étiez mauvais comme un cochon. C'est un métier. Et désolé pour les auditeurs, nos auditeurs fans d'Albert Camus qui auraient aimé qu'on parle plus de la correspondance qu'il a eue avec Maria Cazares. Franchement, si ça tenait qu'à nous, on l'aurait fait, mais Daniel Auteuil nous a confié qu'il préférait parler de sa vie à lui et pas du reste.
C'est moche. Merci beaucoup
d'avoir.
Merci, c'était un plaisir. Et Amoureux ma femme est en salle dès aujourd'hui.
Depuis ce matin. Demain, nous serons avec Jean-Marie Perrier.
Ben ouais, voilà. Je ne savais plus.
Avec Jean-Marie Perrier. Et c'est l'heure de retrouver Philippe Bertrand pour les carnets de campagne. Excellente journée à l'écoute de France Inter, bien entendu.